présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Tant que nous n'avons pas trouvé son existence, il n'existe pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu. Avant la découverte de l'Amérique, on ne savait pas qu'elle existait. Et pourtant, elle existait. Et si quelqu'un avait prédit l'Amérique, Ricain lui dit, il aurait eu tort, car il n'avait pas la preuve. Comme ceux qui croient en Dieu, sans preuve tangible. L'enfant lui dit, et la foi? Ricain lui dit, elle n'est pas une preuve.
Vous avez bien foi à la science, vous.
Ricain lui dit, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même signification. Pendant ce temps, au Vatican, Sa Sainteté, le Pape, disons du futur,
Et autre chose, signor.
Apportez-moi une chaise et une serviette.
Je disais donc, Sa Sainteté le Pape, disons du futur, reçoit dans ses appartements privés, disons celui que l'on dit son préféré, le garde Leonardo, un beau jeune homme blond, aux yeux bleus profonds, grand, mince. Il a 21 ans, célibataire et garde du pape. Léo est assis au salon. Sur le divan, à côté du pape. Le pape veut lui faire un petit mimi sur sa joue. Léo se retire. Le pape lui demande « Pourquoi ?»« Parce que vous ne m'avez pas promis que je serai sergent de la garde. » Le pape soupire et lui dit « Quoi cela te servirait-il ? Puisque tu as le pape, et le pape est au-dessus de tout. Qu'est-ce que cela peut te faire d'être sergent ? Mimi. » Léo lui dit, « Alors pourquoi ne veux-tu pas me le donner ?» Le pape soupire et lui dit, « Je ferai jaser. On dirait que je te donne la place. » Parce que nous sommes amis. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu es le pape. Fais ce que tu veux. Je mettrai à dos tout le monde. Léo lui dit, bon, eh bien je m'en vais. Il se lève. Le pape lui dit, non, reste, je t'en prie. Tu es doux comme du satin. Tes baisers sont du miel. Mon petit Léo, reste. Mimi. Non. Que vont dire les gens? Je ne veux pas. Je ne veux pas passer la nuit dans ta chambre. Ils ne diront rien. Ils n'ont rien à dire. Je suis le pape. Léo lui dit, puisque tu es le pape pour ça, sois-le pour que je sois sergent.
Il s'apprête à quitter la pièce. Le pape lui court après.
Non, reste. Je serai sergent. Je verrai ce que je pourrai faire. Léo sourit et lui dit, bien, je reste. Tu ne trouves pas ? Le costume de sergent m'ira très bien. J'ai la taille bien faite, non? Tiens, touche cela. Et le pape lui met la main autour de la taille.
Oh, oui, tu as la taille bien faite, mon Mimi.
Et il l'emmène dans sa chambre.
Léo se laisse déshabiller. va de soi que nous avons censuré l'intimité du pape. Le lendemain, il est tout joyeux et dit à tout le monde qu'il va devenir le sergent de la garde du pape. On rit sous cap, mais lui prend vraiment les choses au sérieux. Il s'est acheté une voiture à crédit, change d'appartement, et pour remercier son bienfaiteur, il va presque tous les soirs se faire déshabiller. Pour ne pas ennuyer sa sainteté, il ne lui parle plus du poste à pourvoir, mais en parle à tout le monde. Il est tellement fier. Il a écrit à ses parents. Ses parents sont fiers que leur fils est avec le pape. C'est mieux qu'avec un coiffeur ou un danseur, ou même qu'une vendeuse de 4 sous. Là, il n'y a pas plus haut. Il y a eu des violences lorsqu'ils ont appris que leur fils était comme ça. Ils avaient honte et le cachaient. Mais maintenant, ils en parlent à tout le monde.
Mon fils est avec le pape.
Comme vous avez de la chance, le mien est en ménage avec une petite coiffeuse. Malheureusement, il n'y a qu'un pape. S'il y en avait deux, et un pape, ça fait sérieux. La mère dit. Oh oui, il va le nommer sergent. C'est bien, félicitations.
Et depuis ce jour, tout le monde l'appelle sergent. On le respecte encore plus. On dit, c'est le monsieur du pape. Bientôt, son sergent. Et dire qu'avant, il y avait des rois qui, eux aussi, pouvaient faire d'un de leurs sujets un prince. Malheureusement, on leur a coupé la tête.
Notre Leonardo baigne dans le bonheur.
Le pape ne dit rien. Il se contente de le déshabiller.
Toute cette histoire va jusqu'aux amis de Danfort qui lui écrivent.
Un mignon et qui est orgueilleux. J'ai une idée.
Et il va envoyer des lettres dans toute la principauté disant que Leonardo n'est plus le favori du pape. La preuve, c'est un autre qui sera sergent.
Envoie les lettres et tout Vatican rit sous cap de ce pauvre Leonardo. Leonardo ne comprend pas.
Puis, un jour, il reçoit une lettre lui aussi. Il comprend le pourquoi des ricanements. Il est furieux parce qu'on se moque de lui, parce que l'on dit qu'il n'est plus le favori du pape, qu'un autre a pris sa place. Il se dit, Et si le pape m'avait menti? Il va voir le pape dans sa chambre. Qui reçoit ce petit Léo à la taille si bien faite. Il veut le prendre à la taille. Léo se dégage. Il lui demande.
Qu'est-ce qu'il y a, mon petit?
Je ne suis pas ton petit. Est-ce que tu vas donner la charge de sergent à un autre? Le pape soupire et lui dit
« Tu vas pas recommencer avec ça ? »
« Est-ce vrai ?»«
Oui, tu m'as. Ça doit te suffire. Tu ne peux pas avoir la couche du pape et en plus tous les honneurs que penseraient les autres. »
Léo lui dit « Et moi alors ? Tu m'as menti. Tu t'es amusé avec moi. Tu m'as menti. Je te déteste. » Le pape lui dit,
arrête de faire l'enfant.
Pourtant, tu aimes bien me faire jouer à l'enfant, me tripoter, me déshabiller comme un bébé.
C'est vrai, tu me plais. J'aime ça. J'aime ton corps, mais je n'aime pas tes caprices.
Oui, tu es le pape et tu veux que l'on soit à tes ordres.
Le pape lui dit, allez, arrête.
Viens. C'est ça, tout le monde se moque de moi, par ta faute. Le pape le prend par la main.
Le jeune recule.
Non.
Le pape lui dit,
allez.
Je serai sergent.
Nous verrons. Allez.
Leonardo se laisse faire.
Nous censurons bien entendu les débats intimes du pape. Enfin, du futur pape.
Une semaine plus tard, tout le monde apprend que le nouveau sergent est un dénommé Camillo. Lorsque Leonardo l'apprend par le journal, chez ses parents, il a honte et est fou furieux. Il pense que tout le monde le regarde et se moque de lui. Il n'est plus le favori du pape. C'en est fini. Il est devenu le pauvre Léo, celui qui est spécial, etc. Bouillonne de rage et décide de se venger. Pas de se venger de ce pauvre Camillo qu'il ne connaît pas, mais de celui qui l'a nommé. Il se dit tant pis, je vais faire une folie, mais mon honneur est en jeu. Il m'a déshonoré et laissé tomber, le salaud. Il va le payer.
Il court au palais pour aller au bureau du pape.
Il entre sans frapper comme un fou.
Il s'est approché de près du pape qui est en train d'écrire à son bureau.
Le pape, surpris, lui dit «
Qu'est-ce que tu veux ?»«
Venger l'affront que tu m'as fait !» Le pape ne comprend pas. Leonardo sort de sa poche un pistolet et... En plein dans le front, la tête est allée en arrière et tombée en avant sur le bureau. On l'entoure de toutes parts. Des gardes, des religieux, des civils. Leonardo se sent entouré. On crie « Le pape est mort! Le pape est mort !» Leonardo se rend compte de son geste. Il a tué le plus grand homme du monde. On l'entoure de plus en plus. Il met l'homme sur sa tempe et... tombé en avant. Ça s'est passé si vite que les gens ont tout juste eu le temps de s'écarter pour que le corps tombe. Ils n'ont pas fait un geste. Vite, on va fermer les appartements privés du pape. Le Vatican. On allonge le pape sur le lit. Un médecin vient avec une infirmière. Et l'on maquille le pape pour cacher la plaie. Le bureau est rangé. Jeté de l'extérieur du palais, mis dans une voiture. Et on l'emmène loin de la ville. A brûlé dans la voiture.
officiellement, le pape est mort d'une crise cardiaque et Leonardo d'un accident de la route. Les freins de sa voiture ne répondent plus. Il a cogné un mur, ce qui a mis le feu à la voiture. Il n'a peu pu s'en échapper car il était assommé. Il était assommé tout de suite. Funérailles du pape. D'Anfort choisit un homme à lui pour qu'il devienne pape, pour qu'il puisse avoir les coudées libres. Le nouveau pape sera un Français, que vous saurez son nom quand vous en serez là. Il a payé les autres cardinaux avec l'argent de D'Anfort pour qu'il soit élu. Le couronnement du pape. Le scandale du Saint-Suaire n'aura pas lieu. Le faux a été rendu et le nouveau pape dit aux scientifiques de ne plus s'occuper de ce Saint-Suaire, qu'il ne faut pas dire que ce n'est pas le même pour ne pas froisser les hommes. Pendant ce temps, on fait toujours des recherches d'ADN. Malheureusement, un bruit court à l'étranger que l'entreprise Genetou française a prise le Saint-Suaire pour prendre l'ADN de Dieu. On en parle dans les journaux du monde entier. Les gens sont scandalisés et crient, manifestent devant les ambassades de France pour que l'on rende Dieu à la religion. Dieu ne doit pas être laïque. Le président des différents pays écrivent au gouvernement français pour que l'on rende au pape le Saint-Suaire et que l'on ne touche pas à l'ADN. Toutes ces lettres de protestation énervent le président de la République qui convoque à l'Élysée Gallien. Mais comme Gallien ne sait rien de toutes
cette histoire, il convoque Danfort dans son bureau. Il demande à Danfort,
qu'est-ce que cette histoire ?
Il paraît que vous avez Saint-Suaire ?
Danfort lui dit, oui, nous l'avons, avec l'autorisation du pape.
Et pourquoi faire ?
Pour chercher de l'ADN. Si nous trouvons, cela sera peut-être de l'ADN du Christ. Une chose phénoménale, l'ADN de Dieu, vous vous rendez compte ?
Et est-ce que vous avez trouvé quelque chose ?
Non, pour le moment.
Le monde entier est fâché contre nous. Que devons-nous faire ? Rendre le Saint-Suaire ?
Sûrement pas. Tant que nous n'avons pas trouvé, tant que nous n'avons pas fini nos recherches, nous le gardons. L'ADN risque d'être pris par quelqu'un d'autre. Il vaut mieux que ce soit nous.
Mais comment faire ?
Nous avons mis une copie à la place. Il faut nier. Le pape et un des nôtres refusent toute recherche sur le Saint-Suaire. Comme cela, personne ne saura que c'est un faux.
Galien lui demande, qui a divulgué la chose ?
Nous ne savons pas, mais nous cherchons.
Pendant ce temps, les recherches se continuent dans le laboratoire Riquin. Et un jour, l'on trouve de l'ADN. Mais est-ce Dieu ? Riquin fait venir les responsables des Sept Soleils et d'Amphore dans son bureau. Riquin lui dit,
si c'est Dieu, il nous appartient.
Le chef des Sept Soleils lui dit,
il faut mettre l'ADN sacré dans un calice et nous donner pour ma cathédrale en sous-sol. Et mettre de l'ADN dans l'élu. Comme ça, il deviendra Dieu, ou du moins de la famille de Dieu.
L'élu deviendra d'essence divine.
Il faut partager l'ADN en trois. Une pour la recherche, une pour l'élu et une pour la cathédrale.
Riquin lui dit,
j'aimerais tout garder pour la recherche. Toute cette histoire de mettre de l'ADN dans l'élu est ridicule. Qu'en pense le pape si l'on met de l'ADN dans un mortel ?
L'enfant lui dit,
du côté du pape, nous n'avons pas à nous en faire. Il est avec nous, c'est un des nôtres.
Riquin lui dit, comment allez-vous proposer à l'élu pour qu'il se fasse mettre de l'ADN peut-être divin ?
L'enfant lui dit, il n'est pas encore assez mûr pour qu'on lui parle de certaines choses.
Riquin lui dit, vous voyez bien que l'élu est réticent à toute cette quincaillerie des sept soleils. L'enfant lui dit,
nous ne sommes pas là pour nous disputer. Nous avons autant besoin des sept soleils que de science.
Pour ce qui est de l'élu, nous lui mettrons de l'ADN durant son sommeil. Le chef des sept soleils lui dit, ce sera pour ainsi dire son sacre, ça se passera à la cathédrale.
L'enfant lui dit, ce sera monsieur Riquin qui lui injectera l'ADN.
Galien ne sait rien de tout ça. Un soir, il prend son repas dans la salle à manger.
après le repas,
se sent fatigué. La tête qui lui tourne, un peu les jambes flasques, il décide d'aller se coucher.
Il quitte la salle à manger. Entrer dans sa chambre, il a tout juste le temps de s'allonger sur son lit, tout habillé, qu'il s'endort d'un coup. Plus tard, on frappe à la porte de sa chambre. On entre. Ces deux hommes qui portent une civière s'approchent du lit, prennent Galien presque cautieusement. Le dépôt sur la civière. Puis, sortent de la chambre.
Dehors, une ambulance attend. Dès qu'ils arrivent, l'on met la civière derrière.
L'ambulance est arrêtée devant un vieil immeuble du Marais. On sort la civière et l'on rentre dans l'immeuble.
Ils suivent un petit couloir. Ouvre une porte.
Descend des escaliers. Les escaliers donnent à une cave. En bas, il pose la civière à terre. Sur le sol, il y a une trappe. Ils ouvrent la trappe. La trappe donne à des escaliers.
c'est déjà éclairé par des lampes au plafond, plafond voûté.
Ils prennent la civière et descendent les escaliers avec la civière.
En bas se trouve un long couloir, sol en terre battue, mur voûté. Il longe le couloir, au bout se trouve une porte.
Ils ouvrent la porte. Là se trouve une grande et haute pièce en forme de grandes églises avec des colonnes, des rangées de bancs, au bout un autel. Il y a plein de gens, hommes, femmes habillés de noir. Devant l'autel se trouve le chef des sept soleils, habillé d'une chasuble dorée, à ses côtés d'amphores irritants. Lorsque la civière est arrivée, tous ont tourné la tête pour la voir. Chef des Sestinelles, leur dit, amenez l'élu. Porte la civière au pied de l'autel. Galien dort d'un sommeil profond. Le chef des sept soleils se penche vers lui. Il est surpris par la beauté et la pureté de Galien et dit, c'est un ange. Il s'en redresse et vient d'en fort. Introduisez le fruit de ce rêve à l'élu. Il tape des mains. Un homme en noir arrive du fond de la nef avec un plateau d'or et dessus la seringue. Des sept soleils qui la prend et la montre à l'assemblée. Voici le fruit de Cyprès. Puis il la redonne à Danfort, qui la donne à Riquin. Il se penche délicatement, il enlève la veste à Galien, il soulève la manche de sa chemise et lui fait l'injection. Galien ne semble rien ressentir. Et une fois qu'il lui fait l'injection dans le bras, il lui donne un baiser sur le bras et se relève. Le chef des sept soleils se lève, se baisse, lui donne un baiser sur le bras et le rhabille. Puis se redresse et dit, l'élu est encore plus sacré. Il vient de recevoir le fluide sacré, celui qui est à l'origine de tout et qui fait tout. L'être suprême est entré en lui. Et pas symboliquement comme l'hostie, mais pour de vrai, nous devons le protéger et lui obéir. Allez, tu es sacré. Dieu, ramenez l'élu chez lui. Et il le ramène chez lui.
Thank you.
les ramener dans sa chambre. Demain, Galien se réveille, se sent là, lourd, la bouche porteuse, et il a une infime douleur au bras droit, comme une piqûre.
Sort de sa chambre pour aller prendre sa douche. Et il s'habille. Elle va faire à manger pour prendre son petit déjeuner.
Il s'assoit.
Et s'endort à table.
Les domestiques préviennent d'Enfort, qui accourt. Le secoue. Voit qu'il dort. Amenez-le dans son lit. Ils le prennent et le portent dans son lit.
Le lendemain, Galien va mieux et peut reprendre ses activités. Mais on le surveille.
Danfort lui dit :
Vous avez eu une baisse de tension, la fatigue.
Il faut vous faire examiner, surveiller tous les jours par un médecin qui viendra chaque matin.
Galien se laisse faire. De toute façon, il se sent encore faible. Il est surveillé, examiné, et on ne trouve rien de spécial.
Danfort se dit qu'il est peut-être devenu immortel.
Les jours passent.
De Riquin, on continue à faire des tests sur l'ADN.
Mais on ne trouve rien de spécial.
Prêtre intégriste,
ils sont une dizaine autour d'une grande table de bois dans une pièce au mur à la chaux. Une douzaine d'hommes d'âge mûr, cheveux blancs, maigres, habillés d'une soutane noire. Un des hommes qui est au bout de table, ce doit être le supérieur, se lève.
Mes frères, la chose est grave. Des scientifiques impies se sont emparés de l'ADN du Christ. Il faut le leur prendre. Il doit être chez nous. Car chez nous, il sera honoré comme une relique et non comme un échantillon pour faire des expériences.
Il faut former un commando pour aller prendre l'âme du Christ.
Une nouvelle croisade commence.
Le Christ est prisonnier des impies. Il faut le libérer. Il faut le libérer.
Thank you.
Deux mois plus tard, en pleine nuit, à Paris, une voiture s'est arrêtée dans une rue déserte, sombre et triste. En est sorti un homme, grand, mince, habillé d'un pantalon et d'une veste noire. Il a à la main une lampe de poche. La rue n'est pas éclairée. Il marche sur la chaussée en regardant le sol. Puis, arrivé devant une bouche d'égout, il se penche pour l'ouvrir. Et descend par l'échelle jusqu'en bas. Où est inscrit où il doit se diriger. Puis, suit les rues des égouts avec leurs noms. Après un quart d'heure, des rues ont des ouvertures qui vont plus loin. Ces ouvertures sont comme d'immenses tuyaux d'où se déverse l'eau sale qui provient de grandes propriétés éloignées de la rue. S'engouffre dans un de ces tuyaux noirs et sales qui sent mauvais, la lampe de poche entre ses dents. Il marche baissé. Arrivé au fond du tuyau, il voit en haut une ouverture fermée par une plaque. Avec sa main, il réussit à soulever la plaque. Et la pousser plus loin. Une fois l'ouverture libérée, il passe par le trou. Avec sa lampe, il regarde autour de lui.